Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode de notre mini-série sur, eh bien, cet engouement total qui s'appelle le retour à Sion, l'Alia. Alors voilà, dans nos cinq premiers épisodes, nous avons évoqué, eh bien, l'historique de cette réalité. Nous avons évoqué la mitzvah de l'Alia. Nous avons parlé des trois serments pour expliquer qu'il n'y a aucun frein à la réalisation de cette mitzvah. Nous avons évoqué la force et l'importance d'être honnête dans notre rapport à Dieu. Et nous avons même évoqué également l'empressement que nous devons avoir pour réaliser cette mitzvah pour ne pas être soumis au shofar katan. Alors, que me reste-t-il à vous expliquer? Eh bien, il y a une chose qui est très très importante que nous n'avons pas évoquée. Trop de gens viennent et disent, mais enfin, si c'est tellement évident, alors comment ça se fait que nos rabbins là-bas, certains d'entre eux, évidemment pas tous, Chas v'Shalom, mais certains rabbins n'ont pas compris tout cela et vont même jusqu'à pousser les gens à peut-être rester dans les communautés de Chutz La'aretz. On a déjà entendu cela. On a entendu des rabbins, des dirigeants de communautés, et non seulement ne pas être très favorables et ne pas pousser, eh bien, leurs ouailles à monter en Israël, mais voire même à les freiner, à les retenir. Comme un jour, un de mes élèves m'a raconté que lorsqu'il est parti de Créteil, eh bien, le rabbin de sa communauté lui a dit à lui et à sa famille, qui faisait leur alliance en famille, disant, mais vous êtes en train de trahir la communauté. Les amis, cette petite série de vidéos n'arrive pas n'importe quand. Cette petite série de vidéos, eh bien, j'ai essayé de la tourner durant cette semaine dans laquelle nous lisons la paracha de Shlach Lecha, la paracha des Meraglim, des explorateurs. Mes amis, de quoi parle-t-on? Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte pour nous faire rentrer en terre d'Israël. C'est comme ça que la chose est présentée dans la Torah, et c'est la promesse qu'il a faite à Abraham, et c'est ainsi que Moshe se révèle au Béné Israël. C'est un ordre divin que de prendre possession de la terre d'Israël, on l'a vu aujourd'hui, mais évidemment à l'époque de Moshe. Et lorsque nous sommes aux portes de la terre d'Israël, eh bien, on envoie des explorateurs, chose qui n'est pas complètement absurde. Il s'agit de préparer la conquête du pays. Et comme vous connaissez l'histoire, ces 12 personnes sont des tzadikim. Raché Bene Israël Hemma, ce sont les chefs du peuple juif. Et nous disent nos sages dans le Talmud, c'était tous des tzadikim au moment où Moshe les a envoyés. Les géants, les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Et finalement, eh bien, nous connaissons la fin du film, ils reviendront et vont refroidir le peuple juif. Et vont dire à tout le monde, il ne faut pas venir en Israël. 10 d'entre eux seront ces personnages qui vont faire fauter peut-être la faute la plus importante de toute la Torah. Pourquoi je parle de faute la plus importante de toute la Torah, les amis? C'est tellement important. On a tendance à penser que le veau d'or est une faute fondamentale. Et elle l'est. Mais au final, la faute du veau d'or a été pardonnée. Certes, 3000 personnes ont été tuées le jour du veau d'or, mais finalement, la faute a été pardonnée. La faute des explorateurs à Botaï n'a pas été pardonnée. La faute des explorateurs marque le début de Tisha B'Av. C'est le premier événement tragique qui est arrivé à Tisha B'Av. Puisque Dieu nous dit, vous avez pleuré pour rien, je vais vous faire pleurer pour une bonne raison dans l'avenir. Et c'est Tisha B'Av, la première chose qui est arrivée à Tisha B'Av, c'est qu'il a été décrété qu'on ne rentre pas en Israël. Mais ce n'est pas n'importe quoi. La faute des explorateurs, finalement, a créé, eh bien, cette xéra terrible où toute la génération qui est sortie d'Égypte meurt dans le désert. On parle de 600 000 personnes qui vont mourir dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Seule la nouvelle génération rentrera en Israël. Mis à part Caleb et Yoshua, ces deux explorateurs sur les 12 qui, eux, ont voulu faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, de là, on peut en tirer un enseignement très important. Quand il s'agit de décider de partir, monter en Israël, eh bien, la question de savoir s'il y a une majorité de rabbins qui sont contre ou pas ne joue pas. D'abord, ce n'est pas le cas. Mais disons que même il y avait une majorité de rabbins, comme c'était le cas il y a 120 ans, au début du sionisme laïque politique, eh bien, la majorité des rabbins s'opposaient au mouvement de Herzl. Eh bien, ce n'est pas le débat. Yehoshua et Caleb étaient 2 face à 10. Et c'est eux qui ont eu raison et c'est eux qu'il faut écouter. Mais pourquoi les explorateurs ont tellement réfuté l'ordre de Dieu? Pourquoi les explorateurs n'ont-ils pas voulu venir en Israël? Eh bien, les amis, plusieurs avis sont donnés chez nos sages, dans le Talmud, dans le Zohar, dans les Rishonim. Plusieurs réponses. Parmi tant d'autres, je vais vous en citer quelques-unes. Eh bien, d'abord, de ce qui est marqué dans le verset, ils ont dit, on a peur. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas. C'est dangereux de venir en Israël. Dieu n'arrivera pas à battre les Cananéens. Il a réussi à battre Pharaon, mais il n'arrivera pas à battre les Cananéens. Imaginez, si on traduit ça en langage actuel, c'est de dire Dieu, il a réussi à battre les États-Unis, il n'arrivera pas à battre le Luxembourg. Voilà le rapport de force entre l'Égypte, la superpuissance de l'époque, et les 31 petits rois de Canaan. C'est dangereux, et on entend ça aujourd'hui. Non mais tu comprends, venir en Israël c'est super dangereux, il y a des attentats, il y a le terrorisme. Non mais enfin, cet argument, d'abord, il ne tient pas debout, parce qu'encore une fois, Kadosh Baruch Hu nous protège. Mais, mathématiquement parlant, est-ce que vous pouvez imaginer de petites secondes de quoi on parle? C'est terrible de rappeler ces faits-là, mais depuis les 100 dernières années, ont été tués en Israël de juifs près de 25 000 personnes. C'est énorme, c'est terrible. Et comment est-ce que je peux vous dire cette phrase sans être choquant? Mais 25 000 personnes, c'est deux jours pendant la Shoah. Et si je devais faire la liste maintenant de toutes les attaques antisémites et les pogroms que le peuple juif a dû vivre en Houtz Laharès durant son histoire? Non mais enfin, Kadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il peut nous protéger. Et il nous donne une chokhma extraordinaire, il nous donne une armée extraordinaire. Et évidemment que l'argument de dire « c'est dangereux » et quoi, c'est pas dangereux en Houtz Laharès? Il y a un danger terrible que nous n'avons pas évoqué hier dans la vidéo du grand chauffard. Mais un danger terrible! Mais enfin, soyons un tout petit peu conscients. L'assimilation en route à l'arrêt, mais ce sont des proportions absolument terribles. Terribles! Alors, il y a eu un autre argument amené par les explorateurs. Un argument de dire, ah non, mais enfin, on va quand même pas aller en Israël, parce que si on en Israël, on sera obligé de travailler la terre. Et donc, on pourra moins se concentrer à l'étude de la Torah. J'adore cet argument. C'est vrai qu'en Houtz Laharetz, à l'époque du désert, ils étaient dans une yeshiva fantastique. On n'avait pas besoin de se nourrir, pas besoin de se changer, pas besoin de se truc. Complètement dans la spiritualité. Et donc, il faudrait peut-être mieux ne pas faire la Torah pour mieux étudier la Torah. Non, mais enfin, qui t'a demandé de rentrer en Israël? À Kadosh Baruch Hu. Et donc toi tu dis, vaut mieux rester en contradiction avec Dieu pour faire ce que Dieu y veut. Allô? Sefer HaZohar nous dit quelque chose de terrible. Il nous dit que les Meraglim, les explorateurs, ont déchauffé le peuple juif parce qu'ils savaient que s'ils devaient rentrer en Israël, eh bien il y aurait un changement de direction. Que les chefs de tribu qu'ils étaient eux-mêmes dans le désert, eh bien, seraient remplacés. Ce seraient des nouveaux chefs de tribu qui rentreraient en Israël. Et ils ne voulaient pas laisser leur place. Tu comprends? Ils avaient une place de choix. Ils étaient des dirigeants communautaires et des bons dirigeants communautaires. Ils se sont dit, on va quand même pas laisser notre place à d'autres. Comme si c'était possible qu'un rabbin ne pense qu'à son intérêt personnel plutôt qu'au bien du peuple juif. Le Rav Tzvi Yehuda Kouk nous explique que le problème des Meraglim, de la faute des explorateurs, c'est qu'ils ont émis l'idée que finalement on pouvait tout à fait être juif sans Israël. On peut très bien être juif en Houtz Laharetz, et on entend ça tellement. Alors d'abord, non. D'abord, je t'arrête tout de suite. On ne peut pas être très bien juif en Houtz Laharetz. D'abord, pour des raisons mathématiques. 613 mitzvot rabotai, il n'y a qu'une centaine de mitzvot qu'on peut faire en Houtz Laharetz. D'abord, alors vous allez me dire, en Israël, on ne peut pas tout faire non plus, il nous faut le Beth Amikdash, bien évidemment. Sans le Beth Amikdash, on n'est pas complet du tout. Mais le Beth Amikdash, tu ne pourras pas le faire à Brooklyn, c'est pas possible. Rabotaï, on peut très bien être juif partout. C'est d'ailleurs l'avis d'un homme qui était un philosophe juif américain, un peu mouvement conservatif, un petit peu pas, qui s'appelait Avraham Yoshua Heschel. Qui dit que nous, le peuple juif, eh bien, nous ne sommes pas des bâtisseurs de l'espace, nous sommes des bâtisseurs du temps. Notre Kedusha, elle est dans le temps, dans le Shabbat, dans les fêtes. Et pas dans la notion spatiale d'une terre. Et il dira même que la notion de Beth Amikdash vient après la faute du Vaudor. C'est à cause de la faute qu'on en est réduit à cela. Mais c'est complètement faux. Avraham Eshel a oublié le verset de Shirat Hayam. Teviemo vetitaemo be'arnachalatecha machon neshiftecha pe'alta Hashem. Mikdash Hashem konenu yadecha. Dieu veut nous amener sur une terre pour y construire le Beth Amikdash et s'y dévoiler. La notion spatiale et la notion temporelle sont ensemble pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Car il y a deux dimensions qui s'appellent Moed, rencontre. Moed, ça veut dire une rencontre. Il y a Moadé Hachem, les temps de rencontre, et il y a Oel Moed, le lieu du rencontre, de la rencontre. On peut très bien être juif partout. Mais absolument pas. Am Israël et Torah Israël ont besoin de Eretz Israël pour pouvoir eh bien, faire une symbiose véritable. La faute des explorateurs est la pire de toutes celles de la Torah. Me dit le Gaon de Vilna que la faute des explorateurs va revenir l'Atid Lavo. L'Atid Lavo, Bedor Ageoula, nous dit le Gaon de Vilna que la faute des explorateurs revient. Et surenchérit le Rav Eliyahu Gutmacher disant que oui, et cette faute va frapper particulièrement les Talmidei Chachamim de la génération de la Geoula. C'est sa génération au Rav Eliyahu Gutmacher. Il voit tous les autres rabbins lui dire non, 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 le sionisme, pas du tout. Et il faut se rappeler des paroles extraordinaires de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Rabbi Tzadok HaKohen écrit dans son commentaire par rapport à cette paracha. Il dit Rabbi Tzadok, il y a un verset dans la paracha qui est bizarre. Lorsque le lendemain de la Xéra, Dieu a dit, ça y est, vous ne rentrerez pas en Israël. Eh bien, le lendemain, on a une kvoutza, un groupe de personnages qui viennent voir Moshe et qui disent, on a compris notre erreur, chatanu, et donc maintenant, venez, on monte. Ça y est, on y va, on a compris notre erreur, maintenant, on monte en Israël. Et Moshe leur dit, ça ne sert à rien. Lama tomru et pi Hashem. Pourquoi vous révoltez contre Dieu? Vehi lotitzlach. Et celle-là, cette tentative ne réussira pas. Ça deviendra les Ma'apilim qui monteront quand même et qui se feront massacrer. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que veut dire le terme de Moshe? Vehi lotitzlach. Il explique Rabbi Tzadok HaKohen qu'à cette époque-là, cette tentative, dit Moshe, ne marchera pas. Mais il y en aura une autre qui marchera. Il dit Rabbi Tzadok que ça veut dire que viendra un temps, Bedor HaGeoula, Behemot HaMashiach, où rebelote les rabbins, les dirigeants spirituels diront qu'il ne faut pas monter en Israël. Mais Am Israël, de lui-même, il décidera qu'il faut oui monter. Et cette fois-ci, ça marchera. Eh bien, c'est notre génération. Bon, au prochain, aujourd'hui, la majorité des rabbins ne disent plus cela. Ça y est, on a évolué. Mais c'est dans notre génération, au balbutiement du retour en Israël, où une grande partie de la direction religieuse eh bien, avait dit « Non, vaut mieux rester en route, ça l'arrête. » Mais Am Israël s'est réveillé. Et il a dit « Non, moi je reviens ». Et aujourd'hui, il y a 7 millions de Juifs en Israël et toute la direction de la Torah, eh bien, elle est en Israël, que ce soit dans le mouvement Haredi, dans le mouvement chassidique, dans le mouvement sioniste religieux. Les grands dirigeants de la Torah se trouvent en Eretz Israël. La Torah est rentrée à la maison. Rabotai, la faute des explorateurs a été le plus grand chiloul Hashem de l'histoire. Bichlal, la galoute, est le plus grand chiloul Hashem de l'histoire. Nous dit le Megillat Echa, Malka Vesarea Bagoyim Ein Torah. Lorsque mon peuple est en exil, il n'y a pas de Torah, nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin. Ainsi, à propos de ce verset, lorsque Israël est parti en exil, il n'y a pas de plus grand Bitoul Torah que l'exil et de plus grand Chiloul Hashem que l'exil. Ainsi donc, revenir en Israël, c'est non seulement faire l'imout Torah, et c'est en plus réussir à faire le plus grand kiddush Hashem de l'histoire. À très bientôt, les amis, à Jérusalem.